soir qui se concentre sur toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La décision a été prise au cours du Conseil des ministres tenu hier mardi à Kinshasa, sous la direction du président de la République. Raison avancée et mettre fin à la nouvelle crise en gestation au sein de l'Assemblée et du gouvernement de l'Équateur. Quelle analyse faire de ces décisions? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 23 avril 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Marcel Losongo. Il est vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Monsieur Losongo, bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Fabien Munguza, président de la coordination de la société civile de l'Équateur. Fabien Munguza, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Jean-Pierre Beboy, qui est professeur à l'Université catholique du Congo. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Deo Gracias, Idoloa de Kayuyo Manima. Les crises politiques à répétition à l'Équateur s'est réduit aux élections tronquées des animateurs des institutions politiques de cette province. La solution à toutes ces crises est de réhabiliter l'Équateur dans son statut de province de l'opposition. Willy Eloua de Mbandaka à l'Équateur. Pour cette fois, c'est le gouvernement central qui veut ternir l'image de l'Équateur en créant cette crise parce que nous qui vivons ici, nous ne constatons aucune crise, même en gestation. Traiter l'Équateur comme toutes les autres provinces du pays, je m'oppose à cette décision qui n'a aucun fondement légal. Merci de nous suivre en Mbandaka sous la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Suspension hier mardi de toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La décision a été annoncée par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Joseph Kabila. Pour le gouvernement, c'est pour mettre un terme à la crise en gestation au sein de cet organe de la province de l'Équateur. On écoute Lambert Mende au micro d'Inonso Olinga.
Il s'agit d'une décision prise pour des raisons d'ordre public. Il y a menace à la sécurité publique, à l'ordre public. C'est une mesure de police à ceux qui veulent s'écarter de la loi dans la gestion des relations internes au sein des institutions provinciales.
Mais est-il vraiment de la compétence du Conseil des ministres de suspendre les activités d'une assemblée provinciale? Parce que nulle part dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, il n'est aucune fait mention de cette prérogative.
Pensez-vous que lorsque vous provoquez des désordres, une bagarre au cours d'une réunion, il faut que ce soit inscrit dans la Constitution, que le gouvernement peut mettre fin à une bagarre pour que le gouvernement prenne ses responsabilités? Je vous ai dit que le gouvernement est comptable de l'ordre public. L'ordre public est menacé, le gouvernement prend des dispositions en rapport avec l'ordre public. Alors, ce que vous me dites là n'a rien à voir avec ce dont je parle.
Cette décision du gouvernement surprend certains députés, parmi lesquels les députés nationaux Henri Thomas Lokondo, élu des Mbandaka. Il estime que cette décision viole la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces. Henri Thomas Lokondo est au micro une fois de plus d'Inonso Olinga.
Sincèrement, j'ai été surpris d'entendre cette décision du Conseil des ministres parce que sur le plan strictement juridique, je doute fort que le gouvernement central puisse avoir le pouvoir de suspendre les activités d'une assemblée provinciale. Parce que la Constitution qui a consacré le régionalisme politique ne reconnaît seulement et uniquement au chef de l'État le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale. Et la loi sur la libre administration des provinces et d'autres lois même sur les entités territoriales décentralisées ou déconcentrées ne le disent pas non plus. Je crois que le gouvernement central est allé là un peu vite en besogne et a mis la charrue devant les bœufs parce que même sur le plan du droit administratif, vous ne pouvez pas sanctionner une personne, un organe ou une institution en disant je le fais parce qu'il y a un conflit en gestation, donc un conflit qui n'est pas encore né, donc il n'y a pas encore une faute. Je ne justifie rien parce que je ne connais rien, mais ici j'argumente sur le plan de droit. On ne peut pas dire qu'on suspend parce qu'il y a un conflit en gestation. Si c'est ça la prévention de la gouvernance, c'est inédit et atypique.
C'était là Henri Thomas Lokondo. Marcel Losongo, je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Comment vous avez accueilli cette décision du gouvernement?
Madame, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons accueilli cette décision. Mais seulement que nous savons que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions, nous avons l'espoir que le gouvernement central va revenir. Pourquoi ? Parce que l'article 19 de la loi 08/012 du 31 juillet portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces a prévu le mécanisme d'une crise. Donc, lorsque pendant 6 mois successifs, l'Assemblée n'arrive pas à dégager une majorité, et deuxième condition, lorsque l'Assemblée provinciale ne parvient pas à se réunir pendant une session faute de quorum, et la troisième condition, c'est lorsqu'au cours de 2 sessions d'une même année, le gouvernement provincial est renversé à 2 reprises, madame. Donc, je crois, cette décision ne rencontre pas les dispositions de la Constitution ainsi que la loi 08/012 relatif à la libre administration des provinces.
Et donc, pour le gouvernement, loin,
madame, le 31, nous avons procédé à l'ouverture solennelle de la session ordinaire. Le 5 avril 2014, il y avait une réunion du bureau pour préparer l'avant-projet de l'ordre du jour. Et le 9 avril, conformément à notre règlement, il y a eu la conférence des présidents élargie avec le comité des sages. Le 11 avril 2014, il y a eu une rencontre avec tous les députés afin d'envisager un climat apaisé et de capitaliser la cohésion nationale prévue par le chef de l'État. Le 15 avril 2014, il y a eu aussi une rencontre avec le conseil principal du chef de l'État, Raphaël Loulou, dans le même ordre d'idées. Et enfin, le 16 avril 2014, il y a eu une plénière pour adopter l'ordre du jour de la session. Le 18 avril 2014, il y a eu une réunion du bureau pour élaborer un avant-projet du calendrier par rapport à l'ordre du jour de la session adoptée, madame. Et nous avons prévu, le 21 avril 2014, une conférence des présidents pour discuter le calendrier. Et demain, le 24, il y a eu une proposition de réunir les députés pour adopter le calendrier en séance plénière. Mais nous sommes surpris d'apprendre qu'il y a une crise en gestation, madame. Donc, nous avons eu à siéger et nous avons échappé les dispositions de la crise parce que la plénière qui avait eu lieu n'avait pas fait signe de discussion, de querelle entre les députés, madame.
Il n'y avait même pas de tension. Est-ce qu'il n'y avait même pas une certaine tension au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Non, mais il n'y avait pas une tension, madame, parce que nous avons siégé, nous avons organisé la conférence des présidents, on a convoqué la plénière a terminé en bonne et due forme avec les communications du président, madame. Donc, il n'y avait pas une tension.
Mais pourquoi, selon vous, le gouvernement prendrait cette décision de suspendre les activités de l'Assemblée provinciale s'il n'y avait pas de crise en gestation?
Bon, madame, peut-être le terme crise là dont vous faites allusion, je ne sais pas comment vous le définissez, madame. Parce que
c'est le gouvernement qui parle des crises en gestation.
Les constituants congolais, madame, écoute, j'ai la parole. Les constituants congolais ont prévu le mécanisme.
Allez-y, monsieur Losongo.
Oui, je vous disais que les constituants congolais a donné les dispositions lorsqu'il y a une crise. Je vous ai dit que nous avons, conformément à notre règlement, nous avons convoqué une plénière, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de querelle dans cette plénière-là. Et après la plénière, le bureau s'est réuni pour élaborer un avant-projet du calendrier de la session. Après la réunion du bureau, le bureau avait convoqué la conférence des présidents qui est l'organe de concertation. Et nous avons élaboré un projet du calendrier qui devrait être adopté demain par la plénière, madame. Mais le gouvernement central, moi je me pose la question comme tous les Équatoriens, a eu cette information de la crise. Est-ce qu'il y a des preuves, madame? On ne peut pas prendre une décision sur base de rumeurs. Donc je suis en train de regretter quand le porte-parole du gouvernement vous dit que lorsque l'ordre public est troublé, il s'agit de quel ordre public, madame? Parce que nous ne connaissons même pas, et vous pouvez poser la question, il y a aussi les chaînes ici, la radio Cap, s'il y avait cette tentative de troubler l'ordre public. Donc tout le monde allait être au courant, madame. Donc
merci.
Nous sommes en train de regretter pourquoi de telles décisions arrive toujours à l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Merci Marcel Losongo. Fabien Munguza, je rappelle que vous êtes président de la coordination de la société civile de l'Équateur. Vous, comment vous analysez cette décision du gouvernement de suspendre toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Oui, merci madame. Il faut dire que cette décision constitue vraiment une surprise. Une surprise pour nous. Elle est arrivée à un moment où on ne s'y attendait pratiquement pas. Il peut y avoir des tensions. Mais vous savez, madame, les tensions sont tout à fait normales dans une vie parlementaire. À Kinshasa, il y a eu des moments où des députés de l'opposition ont boycotté les séances. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas pu fermer l'Assemblée nationale à ce moment-là? Et donc, cette décision-là, à notre avis, elle est très, très hâtive. Elle est donc disproportionné, sans commune mesure avec la situation que nous vivons à l'Assemblée provinciale.
Alors, Monsieur Fabien Munguza, nous apprenons qu'il y a une pétition qui circule dans la province de l'Équateur. Cette pétition demande carrément la dissolution de l'Assemblée provinciale. C'est une pétition initiée par la nouvelle société civile de l'Équateur. Est-ce que vous êtes au courant?
Oui, madame. Oui, je suis au courant de cette pétition, madame. C'est un exercice tout à fait constitutionnel. Et les contacts que nous avons eus avec nos amis de la nouvelle société civile nous ont révélé qu'ils ne sont pas à l'origine de cette pétition-là. Il s'agit d'une action isolée d'un individu et ça n'engage que cet individu-là. Mais au-delà, il s'agit d'un exercice tout à fait constitutionnel et donc tout Congolais est libre d'initier une pétition comme il l'entend. Mais cette pétition-là, à notre avis, ne peut pas justifier une décision aussi grave qui a consisté à suspendre les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Alors que vous, en tant que société civile de l'Équateur, vous nous confirmez que les travaux se déroulent normalement à l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Si, madame, les travaux se déroulent normalement pour les gens habitués à la vie parlementaire. Et donc, ces tensions-là sont liées à la psychologie des groupes. Et donc, il n'y a rien d'extraordinaire qui puisse justifier une telle décision.
Alors, il y a des auditeurs qui nous écrivent. C'est par exemple Jacques Kassung de Baraka au Sud-Kivu qui dit ceci: tout en saluant la décision du ministre de l'Intérieur, je déplore quand même l'attitude politique des animateurs des institutions provinciales de l'Équateur dont les différents ne placent pas au centre l'intérêt général de la population.
Oui, madame, là il s'agit d'une autre question. Par rapport à la productivité de l'Assemblée, il y a une certaine déception, mais cela ne peut pas justifier que toute une institution comme celle-là ne puisse plus fonctionner, parce que le mode de gestion que nous avons choisi, c'est la décentralisation. C'est la première institution du pays. Et donc, lorsqu'il n'y a pas d'Assemblée qui puisse fonctionner, la vie de la province qui est bloquée.
Alors, selon cet auditeur, les députés provinciaux passent leur temps à se quereller au lieu de travailler pour la population.
Non, madame. Par rapport aux années passées, il faut dire que la dernière session ici a été plus prolifique. En dehors de l'édit budgétaire, je crois que notre Assemblée provinciale a adopté 3 édits. Et donc, il s'agit d'un progrès notable. Le moment par rapport à cela est mal choisi, madame. Sincèrement, il est mal choisi.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens derrière cette décision du gouvernement, je veux dire des tireurs de ficelles, Monsieur Fabien Munguza?
Oui, certainement, madame, il y a des tireurs de ficelles. Il faut dire que, sincèrement que la conduite du gouvernement vis-à-vis de la province de l'Équateur nous laisse perplexes. Le gouvernement attend toujours la moindre occasion pour sortir les muscles en ce qui concerne l'Équateur. Mais par rapport à la même situation, lorsque se déroule dans d'autres provinces, nous ne sentons pas la même rigueur de la part du gouvernement, madame.
Ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures.
L'exemple de Bakata Katanga, qui se permettent même d'arriver à Lubumbashi et hisser les drapeaux, leurs drapeaux à eux. Et ils retournent comme ils étaient venus. Ils sont en train de semer la détresse, madame, au Katanga. Mais le gouvernement apparemment ne fait rien. Notre vaillante armée, qui a prouvé de quoi elle était capable à la province de l'Équateur lorsqu'il s'est agi de combattre les insurgés ignélés. Mais on se demande ce que fait cette armée vis-à-vis de Bakata Katanga. Parce que ce sont des personnes qui sont armées presque de la même façon. Ce ne sont pas des armes de guerre sophistiquées, mais ce sont des armes blanches. S'ils ont été efficaces à l'Équateur, pourquoi ils ne peuvent pas être efficaces au Katanga? Donc nous avons l'impression, nous l'avons déjà dit plus d'une fois, que le gouvernement a une conduite particulière à l'Équateur. Et donc, nous avons parlé l'autre fois de marginalisation. Et nous croyons que c'est la même politique qui continue. Mais nous pensons que le chef de l'État, est induit en erreur, comme vous dites là, par des gens qui ont fondé ces rumeurs, simplement dans le seul but de nuire au bon fonctionnement de la province de l'Équateur.
Mais pourquoi pensez-vous que la province de l'Équateur serait marginalisée par le gouvernement alors que l'Équateur fait partie de la RDC?
Madame, vous voulez que nous puissions encore en dire davantage? Je vous donne l'exemple du seul gouvernement national. Il y a combien de ministres de l'Équateur? Un seul. Les Katanga en a combien? 9. Mais ce sont des preuves tangibles, non, madame? On a parlé de 5 chantiers. Aller partout ailleurs, aller à Kindu, aller à Lubumbashi, aller partout. Mais à l'Équateur, les 5 chantiers, ce n'est resté qu'un slogan. Nous n'avons rien vu de palpable. Donc la marginalisation de l'Équateur, madame, est un fait réel. Est un fait réel et tout le monde qui est à l'Équateur peut l'affirmer, peut le dire. Et même les étrangers qui vivent à l'Équateur se posent la question de savoir pourquoi tel comportement vis-à-vis de la province de l'Équateur.
Alors, le vice-ministre de l'Intérieur est arrivé à Mbandaka cet après-midi, je crois. Est-ce que vous l'avez rencontré?
Nous projetons vivement de les rencontrer pour pouvoir échanger avec lui. Voilà pourquoi nous disons que cette décision est hâtive. Parce que le gouvernement aurait dû attendre les rapports fournis par sa mission qui est sur place à Mbandaka. Comment peut-on mettre la charrue devant le bœuf avant que la mission n'ait accompli son travail et rendu son rapport? On décide préalablement, madame. Nous trouvons que ce n'est pas normal. Nous vous disons qu'il peut y avoir des tensions, mais ces tensions n'ont rien d'extraordinaire par rapport à ceux qui connaissent la vie parlementaire. Et donc, cette décision-là est malvenue, madame.
Merci Fabien Munguza, professeur Bouéboua. Vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo. Quelle est votre lecture par rapport à cette décision du gouvernement de suspendre toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur? Vous avez suivi le vice-président de l'Assemblée provinciale qui s'est dit surpris par cette décision alors que les travaux se déroulent normalement. La société civile mêmement, comment vous quelle est votre lecture à vous par rapport à cette situation?
Voilà, d'abord comme tout citoyen qui suit les interventions de ceux qui sont sur place, peut-être on dirait que le gouvernement a eu d'autres informations plus alarmantes que la réalité, parce que le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur dit que lors de la dernière session, ils ont produit 3 édits, ce qui est déjà une grande performance quand on sait comment nos assemblées provinciales travail. Et alors, suspendre toutes les activités d'une assemblée provinciale, je crois que ce n'est pas vraiment ce qu'il fallait faire, parce qu'apparemment il n'y a pas vraiment un problème assez sérieux qui puisse justifier que le gouvernement central intervienne en suspendant un organe qui est pourtant attendu aussi, comme un des éléments devant apporter des solutions lorsqu'il y a des difficultés dans la province. Normalement, la province doit miser aussi sur son assemblée provinciale pour pouvoir résoudre les problèmes, pour pouvoir résoudre les difficultés qui se posent. Alors, suspendre cette assemblée provinciale, je ne sais pas si c'est l'idéal qu'il fallait faire. Mais avec les informations qui sont données par les gens qui sont à l'Équateur même, on dirait que la décision du gouvernement aurait dû attendre le vice-ministre de l'Intérieur qui est sur place pour pouvoir prendre une décision qui tire les conséquences de la réalité.
S'il fallait suspendre ou pas les activités de cette...
Voilà. D'autant plus qu'il y a un membre du gouvernement central qui est sur place. Je crois qu'il fallait attendre que ces membres fassent d'abord son travail et qu'il amène les rapports. C'est au bout de ces rapports-là que le gouvernement central pouvait voir ce qu'il faut prendre comme mesure pour pouvoir sauvegarder l'ordre public. Encore que dans ces contextes-là, je vois qu'il s'agit plutôt d'une mesure préventive. Alors, quand vous prenez des mesures préventives dans un contexte où vous les appliquez à une institution qui est composée de responsables, je crois que c'est pas un bon exemple, c'est pas un bon témoignage par rapport à cela, parce que toutes les institutions politiques aussi bien nationales que provinciales doivent tourner, doivent fonctionner de manière optimale. Les difficultés dans une assemblée provinciale sont habituelles, donc ça fait partie de la vie parlementaire. Parce que là-dedans, il y a des gens de la majorité, il y a des gens de l'opposition, il y a des gens qui n'ont pas même des partis politiques. Tout ça, ça fait partie. Et lorsqu'ils doivent travailler ensemble, ce n'est pas toujours facile. Donc lorsqu'il y a des difficultés dans une assemblée délibérante, dans une assemblée comme une assemblée provinciale, moi je crois que ça fait partie des choses qui doivent... arriver lorsque les parlementaires se retrouvent, d'autant plus que chaque parlementaire veut prouver qu'il travaille quand même.
Alors professeur, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de l'honorable Henri Thomas Lokondo qui estime que c'est une violation carrément de la Constitution et de la loi sur la libre administration des provinces?
Du point de vue de la Constitution ou du point de vue de la loi sur la libre, le principe fondamental sur la libre administration des provinces, je crois qu'il n'y a pas une disposition qui permette au gouvernement central d'aller directement suspendre une assemblée provinciale. Et l'honorable Thomas Lokondo a bien pris soin de montrer la différence entre ce que le président aurait dû faire et ce que le gouvernement a fait. Donc il fait la distinction entre ce que le président peut faire et ce que le gouvernement peut faire. Dans ce cas-ci, le gouvernement, en tant que gouvernement, n'est pas habilité à poser ce genre d'actes.
Est-ce qu'on peut dire que le président de la République a été induit en erreur?
Mais là, on parle du gouvernement, c'est pas le président de la
République. C'est le président qui a présidé ce conseil de ministres.
Oui, mais le président de la République n'est pas membre du gouvernement. Voilà ce qui est un peu compliqué avec... La situation d'un régime semi-présidentiel comme nous le vivons. Le président de la République convoque le conseil des ministres, il le préside même, mais lui n'est pas membre du gouvernement. Ça veut dire que lorsque le gouvernement prend des décisions, ces décisions n'engagent que le gouvernement. Donc le président de la République n'est pas cité dans une décision qui serait prise hier au cours de ce conseil des ministres-là, même s'il était là.
Alors, il y a cet auditeur, professeur Bebois, qui dit ceci, Deogracias Idoloa, qui nous écrit « Depuis Kayuu au Maniema, les crises politiques à répétition à l'Équateur seraient dues aux élections tronquées des animateurs des institutions politiques de cette province. La solution à toutes ces crises est de réhabiliter l'Équateur dans son statut de province de l'opposition. » Est-ce que ça serait aussi à la base de toutes ces crises à répétition? Parce qu'on sait que l'Équateur, c'est quand même la province de l'opposition.
Bon, là, c'est d'après lui. La province de l'Équateur, c'est une province comme toutes les provinces. Et là, dans cette province, lorsqu'on organise les élections, ça dépend de comment les partis se présentent, quels sont les candidats qu'ils alignent. Il est possible que la majorité aille du côté de l'opposition, mais c'est aussi possible que les partis de la majorité, n'est-ce pas, puissent avoir la majorité. Et donc, on ne peut pas d'office considérer que la province de l'Équateur, c'est une province de l'opposition. Parce que ces genres de considérations, à mon avis, sont un peu tendancieuses. Parce que moi, je ne vois pas pour quelles raisons on peut d'office considérer que la province de l'Équateur, c'est une province de l'opposition.
Merci, professeur. Après la décision du gouvernement central de suspendre toutes les activités à l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour mettre fin à une nouvelle crise en gestation au sein des institutions provinciales, Radio Okapi a recueilli les réactions de la population à travers cette province. Si certains saluent cette décision, d'autres, en revanche, la jugent prématurée. On va suivre ces réactions de ces habitants de Mbandaka au micro de Béatrice Nambindi.
C'est une surprise parce que nous pensons que cela ajoute à la grande difficulté du fonctionnement de l'entité décentralisée de l'Équateur. Je ne sais pas si il n'y avait pas une autre solution que de suspendre toutes les activités. Parce que nous entrevoyons par là un blocage définitif de toutes les activités. C'est jusque-là.
C'était un acte salutaire, l'attitude que le président a affichée. Parce que à voir de loin, nous on avait pensé que les députés, une fois élus, sont envoyés pour défendre la cause de la population. C'est-à-dire la raison qui a fait même que le président décide cette suspension, c'est seulement parce qu'ils ont voulu voter une motion de défiance au vice-gouverneur pour leur intérêt propre.
Nous considérons que la décision du gouvernement central est un peu précipitée et elle est excessive, d'autant plus que cette crise elle n'a pas de commun avec ce que nous avons connu dans le passé. Et nous avons également l'impression que quand il s'agit de l'Équateur, la réaction est disproportionnée. La même situation est connue dans d'autres provinces également, mais on ne voit pas la Kinshasa réagir de la même façon que lorsqu'il s'agit de l'Équateur.
J'ai pris acte du texte de notre président de la République. Mais le reste, nous arriverons à donner notre point de vue en tenant compte si ce texte est légal ou pas.
Marcel Losongo, est-ce que cette décision du gouvernement pourrait avoir des conséquences sur la bonne marche de la province?
Mais oui, madame, ça, c'est effectivement ce que vous dites là, parce que normalement, nous savons que le chef de l'État n'a pas pris cette décision, c'est le gouvernement. C'est pourquoi nous disons que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Quand bien même qu'il y avait cette crise-là, mais la Constitution a prévu le mécanisme, donc il y a le bureau de l'Assemblée nationale et les bureaux du Sénat qui doivent faire les constats et faire rapport au chef de l'État pour des dispositions à prendre, madame. Vous voyez que cette disposition est violée par le gouvernement en prenant cette décision de suspendre les activités, ça c'est un. De deux, le gouvernement a une mainmise au gouvernement provincial. Maintenant, une institution parlementaire est fragilisée et on laisse à l'exécutif fonctionner comme ça, et donc ça handicape la démocratie à l'Équateur. Donc nous disons que le chef de l'État doit vraiment essayer un peu de, à travers ses services, de vérifier, et nous disons qu'il n'y a pas une crise, mais nous sommes en train de regretter, parce que ce n'est pas la première fois, madame. Donc nous avons eu à assister de fermeture et fermeture toujours en provenance de l'exécutif. Alors nous nous posons la question, où serait l'autonomie des assemblées? Parce que nous jouissons d'une certaine autonomie administrative, financière, et nous ne sentons pas cette autonomie. Quand bien même qu'on dit qu'il y a l'ordre public qu'on veut troubler. Mais il s'agit de quel ordre public? Parce que nous-mêmes les parlementaires, nous sommes habitués à des débats, à des échanges, et même au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et j'avais même suivi un intervenant parler de la motion. Oui, mais la motion, quand est-ce qu'on peut appeler une motion? La motion, on ne peut pas la jeter dans la rue. Donc la motion, s'il y a une motion, on doit venir la déposer au bureau. Et il appartient au bureau de juger recevable ou non cette motion pour qu'on puisse notifier l'intéressé. Au niveau du bureau, nous n'avons même pas de traces. Donc, nous ne savons même pas qu'il s'agissait de la motion. Et c'est pourquoi je disais, sur base de rumeurs, une institution parlementaire, la première institution de la province, on la suspend, et on ferme les travaux. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de conséquences, madame. Non, sur le plan démocratique, donc là, vous violez les dispositions de la démocratie. Et nous disons que ça, c'est notre gouvernement que nous voulons bien, Mais le gouvernement doit observer la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif et il y a le pouvoir judiciaire. Hein? Donc tout ce qui se passe au sein de l'exécutif, pourquoi le gouvernement n'a pas pris des décisions pour essayer un peu de régler la situation, alors qu'à l'Assemblée, il n'y a pas une crise, parce que nous référons aux dispositions de l'article 19 de la loi 08/012, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Je vous ai dit que nous avons ouvert, nous avons convoqué la première plénière, et la plénière a terminé sans incident, madame.
Et nous sommes surpris
d'entendre le porte-parole du gouvernement faisant état de la suspension des travaux avec argument comme une crise en gestation.
Alors pour vous, Marcel Osongo,
cette crise n'est même pas née, elle n'est pas encore née.
Elle est en gestation.
Vous pouvez précipiter à handicaper le bon fonctionnement de la première institution de la province, madame.
Et donc, pour vous, Marcel Osongo, c'est le chef de l'État qui doit trancher.
Mais oui, oui, d'accord, parce que c'est à lui la possibilité. Hein, donc, nous, madame, selon le principe de Montesquieu, donc, le chef de l'État, les parlementaires que nous sommes, nous rendons compte au peuple souverain. Tandis que le gouvernement rend compte auprès du chef de l'État et des assemblées parlementaires, les cas d'espèce. Maintenant, si l'exécutif, à chaque moment, arrive à suspendre les travaux de l'organe qui devrait appeler le gouvernement à se justifier, à rendre compte de sa gestion. Donc, vous trouvez que c'est une violation flagrante des dispositions et de la Constitution et de la loi 08/012.
Merci Marcel Losongo. Fabien Munguza, je rappelle que vous êtes président de la coordination de la société civile de l'Équateur. Vous avez suivi quelques bandakés s'exprimer au micro de Radio Okapi. Certains saluent cette mesure du gouvernement parce que il y aurait des motions en préparation contre certaines autorités de la province de l'Équateur. Est-ce que le gouvernement n'a pas bien fait de prévenir cette crise en gestation? On sait bien comment ça se passe à l'Assemblée provinciale de l'Équateur lorsqu'il y a des motions.
Oui, mais madame, je suis plutôt surpris. Une motion rentre dans l'exercice normal de la fonction parlementaire. Et donc, elle ne peut pas justifier à elle seule qu'une décision comme celle-là soit prise. Et le président, le vice-président est clair. Il dit, on ne peut parler de motion que lorsqu'elle est déposée au bureau de l'Assemblée provinciale et puis juger recevable. Aucune de ces étapes n'a été franchie. Et même si elle est franchie, madame, c'est tout à fait constitutionnel. Il n'y a rien de mal à faire une motion contre une autorité dont on estime que la gestion n'a pas été conforme à la volonté générale. Et donc, ça ne peut rien justifier, madame. Et ça traduit celui qui a dit certainement que d'emblée, on peut penser qu'il serait proche à l'autorité, qu'il serait visé par la motion. Et donc là, il n'y a pas d'objectivité. Et vous savez également que l'action de la rue est épidermique. Mais lorsqu'on réfléchit de façon tout à fait approfondie, lorsqu'on sait le rôle d'une assemblée provinciale, madame, vous savez que le système congolais est basé sur le principe selon lequel le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc, nous risquons d'avoir sur le terrain uniquement un seul pouvoir, l'exécutif, sans contrôle. Imaginez-vous quel dérapage, madame, auquel on peut assister. Donc nous disons que l'Assemblée provinciale de l'Équateur mérite de fonctionner comme toutes les autres assemblées. Ce matin, je suivais la radio au Capi. Il y a des députés qui ont dénoncé l'improductivité de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Ils ont dit que depuis un certain nombre d'années, il n'y a que des édits budgétaires qui sont votés, madame. Mais ce n'est pas différent de ce que l'on vit à l'Équateur. Et pourquoi est-ce que là-bas, la situation, on ne la dramatise pas? Et donc, nous disons, madame, que cette décision-là ne se justifie pas. Et nous pensons que le Conseil des ministres va devoir se raviser pour, de nouveau, autoriser le bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale
de l'Équateur.
Fabien Munguza, vous pensez que cette décision pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement de la province de l'Équateur?
Tout à fait, madame. Et des conséquences graves. Parce que d'abord, l'Assemblée provinciale est la représentation du peuple. Elle est l'émanation du peuple, madame. Et donc, son bon fonctionnement est essentiel au fonctionnement de la démocratie. En plus, cette Assemblée-là exerce les contrôles sur les services publics ainsi que sur l'exécutif. Ne fût-ce que par sa simple présence, madame, elle dissuade éventuellement les gens mal intentionnés, les gens qui ne jurent que par la mauvaise gestion. Pour votre information, madame, mais aujourd'hui, il y a des ministres qui ont jubilé, tout simplement parce que pour eux, l'Assemblée était une menace perpétuelle du fait de leur mauvaise gestion. Et imaginez-vous que cette Assemblée n'existe plus, madame. Mais comment la province va-t-elle être gérée?
Et ça veut dire qu'il n'y aura plus de contrôle parlementaire pendant un moment?
Plus de contrôle, oui, plus de contrôle parlementaire, madame. Et imaginez-vous qu'il n'y aurait même plus de budget. Donc comment on va pouvoir fonctionner dans ces conditions-là?
Impossible. Alors pour Marcel Osongo, le chef de l'État, est la seule personne qui pourrait décompter cette situation, vous êtes d'avis?
Bon, d'accord, le président de la République, de par la Constitution, est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais le Conseil des ministres qui a initié cette décision également, en vertu du parallélisme des actes en droit, il doit pouvoir se rendre compte que cette décision-là n'a pas de fondement solide. Déjà à son niveau, il peut se raviser et pour revenir sur les droits chemins. Et lorsque le Conseil des ministres, lorsque le gouvernement ne le fait pas, bien évidemment, le chef de l'État, en dernier recours, il peut apporter sa contribution pour remettre de l'ordre dans la boîte. Il y a également la voie judiciaire. On peut attaquer cette décision également, n'est-ce pas, auprès des juridictions, pour également que des solutions puissent être données. Et donc, voilà un peu, madame, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, le président n'est qu'un des acteurs, et d'autres acteurs également peuvent contribuer à la solution de ce problème.
Lesquels, par exemple, Fabien Munguza?
Oui, j'ai parlé tout à l'heure du gouvernement lui-même qui a pris cette décision-là.
Merci, Fabien.
Le gouvernement peut revenir sur cette décision-là.
Merci, Fabien Munguza, professeur. Il y a Didier Ndambo qui nous écrit. Il dit ceci, je suis angoissé par cette mesure visant à suspendre les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Sincèrement, je me pose la question de savoir ce que cette province a fait pour mériter tous ces traitements, même si des comptes à régler existent, à qui et sur qui doit peser ce règlement de compte. La RDC est indivisible, les restera. Pourquoi des traitements différents de la population? Pour terminer, je suis en train de lire sa réaction, ces crises sont créées par des gens mal intentionnés, déterminés de bloquer le développement de cette province et par ricochet celui du pays en général. Car nul n'ignore que les motions font partie des mécanismes de contrôle des actions du gouvernement par les élus du peuple. Hélas, le fait pour les élus de la province de l'Équateur de projeter une motion oblige le pouvoir central à brandir son veto.
Bon, personnellement, je ne sais pas s'il faut directement dramatiser la situation à ce point-là, mais je vois que le porte-parole du gouvernement central parle de l'ordre public. Hein, il parle de troubler l'ordre public. Il est possible que les informations qui étaient parvenues au gouvernement faisaient état de menaces assez sérieuses à l'ordre public.
Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par une enquête avant de prendre directement la décision de suspendre les activités de l'Assemblée provinciale?
Oui, dans la gestion des affaires publiques, ça peut arriver, non? Ça peut arriver que parfois, d'après les informations que vous avez, vous pensiez que c'est quelque chose de tellement sérieux, et après, vous constatez que ça ne se révèle pas si grave que cela. Alors, un gouvernement... D'abord, c'est rare, c'est la première fois que le gouvernement agit de cette manière-là. Alors, comme le gouvernement a posé cet acte à l'endroit de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, à mon avis, les informations qu'ils avaient au moment où ils ont pris cette décision faisaient état d'une situation assez, 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 euh, assez risqué. Et donc,
vous avez suivi, cette décision aura certainement des conséquences sur le fonctionnement de la province. Le gouvernement provincial va fonctionner. Il n'y aura pas de contrôle parlementaire. Il y a même Fabien Mounouza qui dit que la province va fonctionner sans budget.
Bon, là, c'est quand vous voyez sur le long terme, mais il n'y a rien qui dit que le gouvernement a pris cette décision, a suspendu. On a parlé de la suspension. Et lorsqu'on parle de la suspension, le gouvernement peut aussi lever cette mesure.
Peut-être après un mois, deux mois aussi. Tout comme donc, après un mois.
Voilà, donc ça peut arriver très vite, hein, surtout si...
Mais entre-temps, le gouvernement provincial va travailler sans contrôle parlementaire.
Bon, vous savez, madame, le contrôle parlementaire dans notre pays, on voit même au niveau du gouvernement central, le contrôle parlementaire a été un des points faibles de nos assemblées vis-à-vis des exécutifs. Donc ce n'est pas parce que l'assemblée provinciale est suspendue peut-être pour une semaine ou pour deux jours que directement l'exécutif va agir je ne sais comment. Ils sont aussi responsables. Les membres du gouvernement sont désignés sur la base de leurs responsabilités. Et donc, ils savent ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas se comporter comme des enfants. Ils savent qu'ils sont comptables de tout ce qu'ils font, de leur gestion vis-à-vis du peuple à travers cette assemblée provinciale. Et donc, moi, personnellement, j'espère que le gouvernement central, comme il a un de ses membres, le vice-ministre de l'Intérieur, qui est sur place, lorsque le vice-ministre de l'Intérieur fera son rapport, le gouvernement central prendra une autre décision qui sera la conséquence de ces rapports-là. Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il faut vraiment dramatiser ou considérer que c'est une mesure qui a visé particulièrement la province de l'Équateur. Parce que vous savez, aussi, diriger, c'est prévoir. Hein? Donc, ne pas attendre que la crise éclate pour prendre la décision. Et donc, dans ce genre de situation, on peut parfois prendre une décision qui est un peu beaucoup plus grave que la situation ne l'exigeait en fonction des informations qui sont parvenues au gouvernement central. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement central ayant un de ses membres sur place, le membre va prendre tous les éléments et fera un rapport qui va certainement obliger le gouvernement à tirer les conséquences de ce rapport-là.
Merci, professeur Bouba. On considère cela aussi comme votre conclusion. Il nous reste au moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Alors, Marcel Losongo, on va devoir conclure aussi avec vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez du vice-ministre de l'Intérieur qui est dans vos murs pour essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Oui, madame, mais bon, nous savons que le vice-ministre est arrivé, il va vérifier la situation, il va mener des enquêtes.
Est-ce que vous l'avez rencontré?
Non, pas encore, madame. Bah, il vient d'arriver, bon, il a son agenda, il a prévu nous rencontrer, mais le moment où il va nous rencontrer, nous allons lui expliquer, lui faire voir qu'il n'y a pas une crise, mais seulement que, madame, nous regrettons parce que cette décision à répétition ne vient qu'à l'Équateur. Partout à travers le pays, il n'y a aucune assemblée où on a pris une telle décision.
Merci Marcel Losongo.
Nous nous posons la question si le chef de l'État n'est pas au courant.
Merci Marcel Losongo. Fabien Mounouza, un mot pour conclure.
Oui madame, je crois que le gouvernement va devoir revenir sur sa décision. Et je voudrais également lancer un appel à nos députés de prendre les choses au sérieux, de ne pas offrir un terrain propice à de telles décisions. Et donc il faut qu'ils se mettent en tête qu'ils sont là d'abord pour servir la population et non pour se quereller et non pour se créer des problèmes.
Merci, voilà Fabien. Mon mot de la fin, madame. Merci Fabien, ouais. Mounouza, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à la préparer et la réaliser. Alain Hong, Samuel Kachak, sous la supervision de Pelé Kipelamondo. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en onde de micro Kélin Kouté. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.